Entre les lignes, c'est un podcast réalisé à l'occasion de la dernière édition de Cancade Vercors. Pendant 5 jours, Radio Royan Vercors a installé son studio mobile sur le camp de base de ce festival dédié à l'escalade et à la highline, situé à Pont-en-Royan. On s'est penché sur ce qui se joue aujourd'hui dans nos pratiques. C'était l'occasion de se poser ensemble des questions qui peuvent gratter et surtout d'échanger sur ce qui nous anime. Troisième épisode, on revient sur le vertige de l'écologie. Comment les enjeux environnementaux sont-ils intégrés dans les pratiques d'escalade et de highline? Quels impacts a-t-on lorsque l'on va sur des sites naturels, que l'on crée des nouvelles lignes dans le Royan? Les contradictions liées à ces sujets sont nombreuses. Et on discute de tout ça avec Manon, chargée de mission biodiversité au Parc naturel régional du Vercors, Marie-Wen, Romy et Noéline, jeunes grimpeuses du club d'escalade Rêve à Pont-en-Royan, Ludovic, highliner et fondateur de l'association Sailing Highlining International Project, et Tom, avec qui on a imaginé cette série de podcasts.
Moi, je m'appelle Romy, je fais de l'escalade depuis 5 ans. Pour ce qui est de l'écologie, je dirais que c'est important de faire attention déjà à ce qu'on fait au niveau des déchets, de ne pas laisser de choses derrière nous et d'essayer de respecter aussi l'environnement dans lequel on évolue. Pas faire trop de bruit, pas déranger les autres aussi. Les propriétaires aussi des falaises, souvent.
Moi, je m'appelle Lobel Marie-Wen. Je pratique beaucoup l'escalade, mais j'ai jamais fait de highline. Et après, niveau écologie, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il ne faut pas pratiquer trop parce que ça abîme les roches, les écosystèmes, tout ce qui peut être flore sur les roches, au pied des falaises, etc. Donc c'est vrai qu'il faut être responsable là-dessus et quand même penser à ce qui se passe derrière en fait, notre pratique, quoi.
Moi, je m'appelle Noéline et je pratique uniquement l'escalade aussi. Et c'est vrai que la question de l'écologie, elle revient énormément, de plus en plus, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup plus. On s'en rend compte à plus de l'après.
Bonjour, moi je m'appelle Ludovic Chavanet, du coup je pratique principalement la highline, la slackline. En termes d'écologie, je trouve que dans nos pratiques, il y a quelque chose qui est proche de la nature, donc d'une certaine manière, même si... comme on le disait avant, on peut abîmer les zones dans lesquelles on s'approche en partie. On en a aussi conscience. Et du coup, de voir l'impact qu'on a sur les milieux dans lesquels on va pratiquer la slack ou qu'on va pratiquer l'escalade, c'est aussi prendre conscience de comment on peut minimiser nos impacts ou simplement choisir où est-ce qu'on va et peut-être préserver des falaises ou préserver des endroits en disant « là, on ne va pas y aller parce qu'on a envie que ça reste le plus naturel possible ».
Et bonjour, moi je m'appelle Tom. Je fais principalement de l'escalade. Beaucoup d'escalade en falaise et j'ai fait un master sur la transition écologique, plutôt le volet sociétal, politique, pas du tout une formation d'écologue, scientifique, naturaliste. Et du coup, moi, ce qui me touche plus, c'est la question de nos modes de vie, de notamment comment on se rend à la falaise. Ouais, principalement le transport, c'est vrai que ça me touche toujours, ça me rend triste quand je vois... certains milieux soi-disant naturels qui se transforment en d'immenses parkings. Voilà.
Alors moi je m'appelle Manon, je travaille au parc du Vercors et au parc je suis chargée de mission biodiversité et en charge de l'animation de plusieurs sites Natura 2000. Donc quand je parle biodiversité, forcément j'ai une formation d'écologue et j'ai aussi une formation en sociologie de l'environnement, c'est un peu ce qui fait mon parcours. Et ce qui fait que sur certaines de mes missions au parc, je travaille sur ces conciliations des usages, souvent. Un parc naturel régional, c'est une structure qui est décidée localement par un territoire, qui s'identifie en lien avec son massif, son identité à la fois naturelle, mais aussi de ses habitants. L'écologie fait partie du cœur de nos missions, mais aussi donc la gestion d'espaces naturels, mais aussi le fait qu'on ait un territoire habité et que les habitants font partie de notre identité. Donc on a pour prérogative politique le fait de chercher au maximum cette conciliation d'usage dans toute notre façon de travailler, en fait. Donc sur cette question de l'escalade et de la highline, moi je suis pas du tout pratiquante. Par contre, j'ai une formation en écologie, donc j'ai un certain regard sur les falaises, mais qui est beaucoup moins précis qu'un naturaliste spécialiste des oiseaux ou un botaniste spécialiste de la végétation de falaises. Mais mon boulot au parc, c'est donc d'essayer de faire en sorte d'associer au maximum ces regards différents entre les pratiquants les équipeurs, les grimpeurs et les poseurs de highline. Et ces regards de naturalistes qui sont souvent peu écoutés les uns vis-à-vis des autres. Enfin, ils s'écoutent peu, pardon. Et donc, notre job, parce que je ne travaille pas toute seule là-dessus, évidemment, en binôme avec le service tourisme et mon collègue en charge des sports de nature, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des temps de rencontre, des temps d'échange, des temps de formation aussi, pour faire en sorte que tout le monde se parle. Voilà.
Et tu fais ça depuis longtemps ?
Moi, ça fait 15 ans que je travaille au parc. Et donc, ça fait un peu moins de 15 ans que je travaille sur ces thématiques-là. D'abord dans les sites Natura 2000, où il y a une réglementation en lien avec la pratique de sport en falaise qui dit que, en théorie, toute nouvelle voie d'escalade est soumise à un regard particulier qui s'appelle une évaluation d'incidence et qui fait qu'avec mes collègues du service sport de nature et tourisme, on a proposé à l'État de travailler un peu différemment dans nos sites Natura 2000 du territoire pour expérimenter des choses qu'on a élargies à l'échelle du parc. Et donc de ne pas forcément passer par la réglementation, mais d'essayer de trouver d'autres manières de faire, notamment de dialoguer, de créer des temps de formation, d'échange, etc.
C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à grimper, en fait, j'ai grimpé en intérieur. Donc je ne me rendais pas compte de l'impact que la grimpe pouvait avoir en fait, sur les roches naturelles. Et donc c'est quand j'en ai fait de plus en plus que bah, là, en fait, on se rend compte que bah, rien que les transports pour y aller, parce que les marches d'approche, souvent, on les fait à pied, en fait. Mais pour aller sur le site, souvent, on y va en voiture ou en covoiturage, mais dans tous les cas, ça pollue beaucoup. Donc c'est vrai que c'est dommage et il y a quand même certaines personnes qui pensent pas forcément à l'écologie et à tout ce qui est prendre soin de la falaise et de tout ce qui l'entoure. C'est vrai qu'il y a tout ça, on s'en rend compte en fait quand on grimpe beaucoup dehors et enfin on tilte et on se dit bah ça a quand même un impact quoi sur la nature, c'est pas rien.
Bah, c'est vrai que c'est pareil, avant je grimpais très peu en falaise, j'ai commencé pareil beaucoup en salle. Mais aujourd'hui, bah, on voit que déjà l'escalade, ça a pris beaucoup d'ampleur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne prêtent pas attention à, bah, à l'écologie, à tout ça. Bah, ça reste assez important parce que c'est un sport très proche de la nature. Donc, bah, c'est le respect de ça, qu'elle soit des falaises, comme on disait tout à l'heure, des propriétaires et des lieux surtout.
Il y a quelque chose de super intéressant et qui m'a beaucoup marqué dans toutes nos pratiques en général quand on va en nature, c'est que vous le dites. Que vous faites une différence énorme entre pratiquer en salle ou pratiquer en extérieur, sauf que il y a une part de l'impact, c'est-à-dire comme tu le disais bien, on fait partie de notre milieu, donc la pollution c'est inhérent à vivre, on respire, on a des vêtements, on se déplace. Par contre, qu'est-ce qui est le mieux entre fabriquer une salle d'escalade et des prises d'escalade qui sont faites en Chine et qui sont ramenées jusqu'à chez nous et qu'on va user, qu'on va rattraper, ou abîmer nos falaises et choisir lesquelles on abîme? Et choisir et constater qu'en fait on a un impact sur nos falaises qui sont juste à côté de chez nous, on peut aller à pied. Et donc c'est intéressant d'avoir ce paradoxe entre on a envie de bien faire et on se rend compte que si c'est naturel, bah on a un impact, oui, mais du coup si c'est artificiel, on oublie qu'on a un impact parce qu'elle se passe ailleurs. Si je rebondis là-dessus, nous ça nous arrive très souvent à Highline pour des organisations ou pour un festival ou pour des moments où on sait qu'il va y avoir du monde qui vont revenir sur un secteur, bah en fait on est obligé d'ouvrir un sentier et c'est pas drôle. Forcément, où on veut installer des lignes, on est obligé de couper des branches parce qu'elles ne sont pas pratiques pour les lignes. On le sait qu'on le fait, quoi. On ne le fait pas forcément avec plaisir. Et puis après, on choisit où est-ce qu'on met notre impact. Bah, du coup, on va couper telle branche et telle branche. Ou peut-être on va éviter d'installer la ligne là pour éviter de couper justement un arbre. Et puis le sentier, on va définir de faire un accès. Et on sait que cette zone-là, elle va être piétinée, abîmée avec les plantes. Par contre, on va faire en sorte que les gens n'aillent pas ailleurs. Donc bah, on abîme, mais on choisit, on essaye de limiter. Mais je préfère ça plutôt que finalement aller fabriquer des structures artificielles ou installer deux énormes Manitou au milieu du village pour aller tendre ça sur deux grosses machines en se disant bah comme ça j'abîme pas les falaises. Je crois que j'ai fait mon choix.
Du coup pour toi il y a une sorte de conscience quand on vient grimper, quand on vient poser une ligne, on est conscient de ce qu'on est en train de faire?
Bah, je trouve qu'on en prend plus conscience parce qu'en fait on abîme un milieu qu'on a vu neutre, sans notre présence, et puis du coup on le redécouvre avec notre présence. Et à l'inverse, c'est vrai que quand on fait des choses artificielles, bah, on prend pas cette conscience là parce que le milieu est déjà artificiel. Du coup on en oublie qu'on a un impact en fait avec le fait d'avoir une salle d'escalade. C'est peut-être qu'il y avait des arbres, peut-être qu'il y avait autre chose avant qu'on construise cette salle, quoi.
Et du coup, ça m'amène à la notion de presque diplomatie. Est-ce que parfois, voilà, on renonce à certains choix au profit d'une espèce sensible ? Toi, Manon, tu as déjà eu affaire à des discussions avec des usagers des falaises où bah, justement, il y a eu besoin de faire ce travail de médiation. Et quels paramètres, quels critères on utilise pour faire ces choix de « ok, on grimpe pas, on met une ligne, on la met pas ».
Alors, on utilise plusieurs critères. En effet, on a mené un gros travail avec les équipeurs du territoire du Vercors, qui a démarré en 2017, parce qu'on constatait justement qu'il y avait de plus en plus d'équipements, entre guillemets, avec des gros guillemets, sauvages, dans des sites non encore utilisés. Et les falaises, c'est considéré comme un habitat qui est quand même très peu pratique pour l'homme, dans l'absolu. Même si historiquement dans le Vercors il y a des passages où on se dit mais comment ils faisaient pour passer là, n'empêche que la falaise ça reste un milieu qui est relativement préservé pour la faune et la flore de notre territoire en tout cas. Et du coup en 2017 on a fait le choix avec, en concertation avec les pratiquants d'escalade de décider de se mettre tous autour de la table avec ceux qui le souhaitaient pour définir ensemble ben, justement c'est quoi les critères qui font qu'on enclenche une création de nouvelles voies ou pas. Et du coup, on a construit avec eux toute une méthode d'observation qui inclut aussi les naturalistes et qui a abouti, je vous la fais courte, à l'identification et la création d'une plateforme web qui est hébergée chez nous. C'est un site web cartographique qui est disponible et accessible à tous les équipeurs qui le souhaitent, qui s'inscrivent auprès de nous, qui leur permet de déposer leur projet. Mais ce projet-là, il est visible que par eux, l'équipeur qui a déposé le projet, et par nous, à l'équipe parc. Ça lui donne aussi accès à l'état de nos connaissances aujourd'hui sur la biodiversité des falaises et sur les propriétés foncières. Parce que je ne sais plus laquelle d'entre vous a parlé de ça, du fait qu'on est toujours chez quelqu'un. Et que ça, c'est aussi un aspect important de la création d'un nouveau site d'escalade. Donc nous, on donne accès au numéro de la parcelle et ça permet à l'équipeur qui crée son nouveau site de faire les démarches auprès de la commune aussi pour avoir les autorisations du propriétaire foncier. Et du coup, on identifie à la fois des espèces qui sont sensibles au dérangement, comme des grands oiseaux rupestres type l'aigle royal. Plus l'oiseau est grand, plus il est sensible au dérangement, en gros. Et puis on identifie là où on a des connaissances de pointage de flore protégée, qui est aussi sensible et qui risque d'être détériorée par la création d'une nouvelle voie. Et on montre aussi les différents zonages environnementaux, puisqu'il existe des zonages environnementaux qui interdisent complètement la création de nouvelles voies, comme le territoire de la réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux, où là, la création de nouvelles voies est complètement interdite. Et du coup, cette plateforme-là, elle permet à tous les équipeurs qui le souhaitent d'avoir accès à ces données. Il nous décrit son projet, il nous dit s'il a un nouveau parking à créer, un nouveau chemin ou pas. Donc il prend aussi conscience, il a tout un questionnaire, et il prend aussi conscience de ce que ça veut dire de créer un nouveau site. En tout cas, il l'écrit et il le formalise. Ça lui permet aussi d'identifier le nombre de voies qu'il veut créer, quel niveau de difficulté il a imaginé et appréhendé. Et selon les enjeux de biodiversité qu'on connaît, soit on va lui dire, bah, en fait, c'est un site où il y a a priori pas d'enjeu aujourd'hui, donc vas-y. Soit on va aller jusqu'à déclencher une visite sur site avec un naturaliste pour regarder les falaises avec ses regards différenciés en fait, entre le grimpeur qui voit sa voie dans cette falaise un peu ocre et le naturaliste qui voit dans cette falaise un peu ocre en fait un intérêt pour tel ou tel oiseau par exemple. Évidemment c'est sur la base du volontariat. Ça permet pas de créer du lien avec l'ensemble des équipeurs du territoire, mais ça permet de créer un noyau de gens conscients et associés à nos connaissances au maximum, même si on ne connaît pas tout, évidemment. Et ça a permis de déminer des moments un peu tendus. J'ai un exemple très concret sur un site protégé il y a pas très longtemps, enfin il y a 2-3 ans, où on a pu voir apparaître un naturaliste nous appelle et qui a participé à la concertation, m'appelle et me dit... Il y a des spites qui brillent, qui passent dans une aire d'aigle. L'aigle royal, c'est une des espèces les plus sensibles au dérangement. Il faut faire quelque chose. Et en fait, en passant 3 coups de fil à des équipeurs du secteur, j'ai jamais su qui était l'équipeur qui avait mis les spites, mais je m'en fiche. Il est parti les enlever parce que d'autres équipeurs l'ont appelé en lui expliquant la situation. Et en fait, pour nous, parc, c'est ça qui fonctionne et c'est ça qui est l'objectif de notre travail, en fait.
Ah, t'as répondu à toutes les questions que j'allais poser.
Alors vas-y, si tu veux des précisions.
Non, j'allais demander un exemple et peut-être si vous étiez satisfait de cet outil ou sinon quels autres outils vous utilisiez de dialogue, de médiation, de...
Alors cet outil-là, c'est un peu notre base de travail. Après, selon les situations, par exemple, je parlais de la réserve naturelle nationale tout à l'heure, c'est un outil de protection forte. Et du coup, il y a une discussion vraiment liée aux équipeurs et aux pratiquants du secteur. Principalement dans le sud de la réserve, vous grimpeurs, vous connaissez forcément le cirque d'Archiane, qui est un site de terrain d'aventure qui est fabuleux, a priori, mais aussi avec des enjeux très 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 forts de biodiversité, avec le JPAET et le vautour fauve qui sont nicheurs dans le secteur. Et du coup, il y a une instance de discussion et de dialogue vraiment dédiée à ça, où il y a des rencontres à peu près au moins 2 fois par an entre l'équipe de la réserve et les grimpeurs, équipeurs piliers du secteur, pour que les messages passent le mieux possible. On a de la reproduction de JPAET barbu suite à un programme de réintroduction qui fonctionne maintenant en pleine nature, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui se reproduisent. Donc tous les ans, on met en place des zones de sensibilité majeures dans ce secteur qui donc bloquent complètement la pratique, même s'il y a un sentier de randonnée, un GR. Là, c'est un tel enjeu de protection, le JPA, il supporte vraiment pas du tout le dérangement. Que donc il y a ces zones de sensibilité majeures, et plus on est en dialogue avec les pratiquants locaux, quel que soit le sport de nature, j'ai envie de dire, et plus ça permet que la connaissance de cette interdiction ponctuelle, elle soit diffusée au maximum.
Tu parlais que vous collaboriez avec le club de rêve, et je crois que vous, les filles, vous êtes passées par ce club, donc le club d'escalade de Pont-en-Royans. Est-ce que la thématique de l'écologie, donc la sensibilité aux espèces qui sont présentes, voilà, à des moments, il ne faut pas aller grimper dans telle voie, est-ce que c'est des choses dont vous parlez beaucoup entre vous? Est-ce que c'est des trucs que vous discutez au club?
C'est vrai qu'on a des encadrants et des personnes qui sont avec nous, qui font vachement attention. Donc c'est très sensibilisant, ça nous permet nous d'en apprendre beaucoup plus, que ce soit sur les falaises, sur les alentours, et du coup sur l'écologie, sur la faune et la flore qu'il y a. Et ça nous permet d'être beaucoup plus sensibilisés, et donc on s'y intéresse plus. Et on est plus au courant de tout ça.
Nous, du coup, on avait un encadrant, donc c'est Quentin. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà. Et du coup, il nous sensibilisait beaucoup, en fait, du coup, là, sur tout ça. Donc, de nous-mêmes, on faisait attention, comme disait Romy, au papier, au savoir vivre ensemble, etc. Chacun était plutôt responsable là-dessus. Et lui, Quentin, apportait plus des petits détails qu'on voit pas forcément, mais qui, quand on les ajoute, si tout le monde fait ça, en fait, au bout d'un moment, on remarque que ça a un effet, en fait, sur la nature, quoi. Donc lui, il nous sensibilisait là-dessus, sur des petits trucs banals qu'on n'y pense pas forcément. Et de nous-mêmes, on faisait des trucs communs, quoi, de pas jeter les papiers, ce qui semble logique pour la plupart des personnes, j'espère. Voilà.
Moi, j'avais une question pour Ludo, parce que depuis la discussion, j'ai l'impression de beaucoup entendre ne pas équiper, ne pas aller grimper ici, ne pas jeter ses déchets. Quand je t'ai proposé de venir à cette discussion, t'avais l'air hyper enthousiaste, comme si l'écologie, ça pouvait aussi être un moteur, une motivation pour faire des projets. Tu me parlais de bateaux et de Highline. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais ?
En effet, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ne pas, et en particulier en France, parce qu'on est très concerné par observer ce qui se passe autour de nous, aussi parce qu'on est très nombreux. Après, moi, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal à l'étranger ces 12 dernières années, et donc, comme tu le dis, à la voile. Et j'ai un regard peut-être un peu différent, en fait, sur la pratique, on va dire, en général, dans la nature, parce qu'il y a vraiment une contradiction. C'est toujours un paradoxe, de toute manière, d'aller dans la nature, c'est un paradoxe. On voudrait protéger quelque chose qu'on piétine. Donc il y a un moment où on va pas y arriver, quoi. Et en fait, si on veut aller observer, il y a une part de nous qui va laisser une trace. Après, on choisit de laisser cette trace, et du coup on a conscience, et on peut même être triste de ce paradoxe et des traces qu'on laisse. Et de la même manière, je me suis retrouvé à aller naviguer, et on a même monté une association avec une amie depuis 3 ans qui s'appelle Sailing Highlining International Project, et qui a pour projet principalement la pratique et le lien humain. De voyager à travers le monde à la voile pour rencontrer des communautés ou faire découvrir la slackline à d'autres personnes, à des villages. On s'est retrouvé par hasard sur une plage en République dominicaine, dans un village qui croise pas beaucoup de monde, avec un voilier qui se pose devant chez eux. Et en restant quelques jours spontanément, en mettant juste quelques sangles sur les plages pour les enfants ou les adultes, c'est un échange humain qui est excellent, qui n'est pas forcément justement aller au bout de la nature dans les endroits sauvages, mais qui est aller dans des endroits qui sont isolés et voilà, apporter une autre pratique, un autre regard, voilà, faire rêver un petit peu, genre changer, on va dire, l'imaginaire des autres. Ça, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup, en fait, qui est finalement peut-être en lien avec l'écologie aussi, comme tu dis, c'est-à-dire que parle d'écologie, on en fait partie, nous, humains, et en fait, parler, échanger ensemble, échanger des savoirs et des connaissances, bah, c'est aussi une manière de... Voilà, de prendre conscience de notre environnement, de tout ce qu'il y a autour. Et l'idée de se déplacer à la voile, moi, c'est, je ne l'ai jamais fait directement par écologie, parce que si des personnes ont déjà navigué, ils se prendront conscience que c'est sûrement un des moyens les plus horribles de voyager. C'est dur de le dire comme ça, mais c'est long, c'est difficile, c'est contraignant, ça coûte cher, c'est pas particulièrement écologique sur les bateaux. On essaye de faire de notre mieux, parce que certes, on n'utilise pas notre moteur, et qu'on utilise le vent comme moteur, mais malgré tout, bah, faut entretenir les bateaux, on utilise des peintures chimiques, c'est toujours un paradoxe, encore une fois. On veut essayer d'être le plus propre possible, et on est obligé d'avoir des peintures pour protéger notre coque, pour éviter que les algues se développent dessus. Donc évidemment, bah, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est le préserver, essayer d'entretenir les choses, de réparer ce qu'on a, d'utiliser au maximum nos outils. Mais voilà, malgré tout... C'est magnifique de pouvoir aller loin et du coup observer en fait ce paradoxe pour peut-être trouver sa place là-dedans. La magie du voyager en bateau, elle est autre que simplement le trajet, et voilà, ça va beaucoup plus loin en fait. Et c'est un peu pareil pour l'escalade, on peut très bien aller en haut de la montagne par un autre chemin détourné, mais on choisit un chemin qui nous plaît, quelque chose qui est beau en fait, qui est inspirant pour tout le monde, qui est difficile aussi. Et peut-être que prendre son temps sur les falaises à se mettre en difficulté, à se batailler avec les voies, ou passer 4 jours dans une falaise comme la ligne qu'on a équipée au-dessus, qui est assez longue au-dessus du village, et passer des heures à marcher là-dessus, à observer le vide et à ralentir, quoi. Essayer de faire un pas après l'autre le plus lentement possible, ça permet aussi de prendre certaines considérations, on va dire, écologiques ou autres, sur qui nous sommes.
Et moi, j'avais envie de rebondir un peu sur la question de la posture. Toi, tu viens un peu d'exprimer la tienne quand tu choisissais de voyager en bateau. Mmh. Moi, j'avais envie de te poser la question, Tom, parce que je crois que tu as pas mal vu des endroits aussi où les grimpeurs, les grimpeuses vont en falaise. Tu m'as déjà parlé de ce voyage un peu all-inclusive. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience dans certains endroits?
C'est vrai que moi, cette année, j'ai voyagé un peu à vélo et en stop pour aller voir des auberges et des campings de grimpe qui me semblaient inspirants. D'un point de vue écologique ou social, donc qui crée du lien, des lieux qui soient conviviaux. Et cet hiver, j'étais en Espagne et je me suis rendu compte que la grande majorité des gens qui venaient là profitaient de vols low cost pour venir passer une ou deux semaines au soleil, parce que à raison, ils avaient froid dans les pays du Nord où ils étaient, aussi beaucoup des États-Unis. Et donc ils arrivent à l'aéroport, ils louent la voiture, ils viennent à la falaise, ils passent une ou deux semaines à la falaise à rien faire d'autre, puis ils rentrent chez eux. Et moi, c'est vrai que ça c'est l'extrême de notre modèle, mais il y a toujours une forme de... un risque de tomber dans une forme de consommation de nos pratiques. Et je pense que ce dont tu parlais, Ludo, du bateau, de ralentir, de faire du lien, là on a plus la chance de rencontrer les habitants. Et moi, je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse dans ces lieux, dans ces auberges. C'est des portes d'entrée sur un territoire qui permettent de rencontrer des gens qui y vivent. Pas toujours, parce que malheureusement, parfois, ces auberges et ces campings sont là pour des raisons purement mercantiles de se faire de l'argent. Mais des fois, il y a d'autres valeurs derrière, qui est la partage d'une passion, la partage d'un territoire. Et dans ces cas-là, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et justement, Manon, au début, tu nous as parlé de biodiversité et surtout de l'impact sur le milieu naturel. Est-ce que, avec le parc, dans tes missions, tu as aussi ce rôle-là de faire du lien avec les habitants? Comment ça se passe, plus ce volet-là?
Finalement, ça se passe assez peu, puisque ce n'est pas notre entrée directe. Le lien aux habitants, on le fait au travers de nos adhérents, c'est-à-dire les communes du territoire. Et les élus des communes sont les représentants des citoyens et donc des habitants. Après, on essaye de sensibiliser le plus grand public. Par exemple, Bon, ça fait 2 ans qu'on ne tient pas de stand, mais on a tenu des stands à Caen 4 pendant pas mal d'années. Participer à proposer, diffuser des films de sensibilisation sur qu'est-ce que la faune et la flore des falaises, en quoi ça consiste, à quoi ils ressemblent, c'est quoi leur cycle de reproduction, etc. On essaye de participer à l'AG des clubs d'escalade importants comme celui de Rêve, ou à l'AG de paralpinisme, par exemple, qui a lieu tous les ans à Chorange. On essaye d'être présent pour échanger, mais plus avec les pratiquants que directement avec les habitants, finalement. Je sais que petit à petit, il y a aussi des cycles de formation pour les BE qui sont de plus en plus orientés vers la biodiversité, pour intégrer aussi ça dans les pratiques.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que ça peut être pris comme une contrainte et quelque chose de négatif, mais finalement, ça peut aussi être à l'origine de pas mal de projets inspirants ou des... Ouais, une nouvelle manière de voir ce qui nous entoure. Parce que finalement, les grimpeurs, les grimpeuses et les personnes qui font de la highline sont les premiers observateurs des falaises. En fait, ça pourrait être une super source d'information pour faire remonter la présence. Bah voilà, c'est bon, le faucon, il est arrivé, il niche, super. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se passent où on vous remonte des informations de genre « Ah waouh, génial, j'ai vu telle nouvelle espèce ».
Et ben pour l'anecdote, le grand-duc des petits goulets, les naturalistes avaient connaissance de l'existence du couple et de la reproduction parce qu'il y a la route des petits goulets qui passe là et qu'en fait, ils écoutaient et ils entendaient le son des animaux, quoi. Et les jeunes ne font pas le même son que les parents, donc forcément, ça permet d'identifier qu'il y a de la reproduction. Mais le lieu réel, la baume dans laquelle les œufs étaient pondus, ils ne savaient pas où elle était parce qu'ils ne pratiquent pas forcément la grimpe et jusqu'à la création des voies, on n'avait pas cette connaissance-là. Parce qu'il n'y a tellement pas de déport des falaises qu'on ne peut pas les observer de loin, donc c'est hyper dur à voir. J'ai envie de dire que c'est grâce à la création des voies d'escalade qu'on a su où était localisée réellement la baume utilisée par le couple, puisqu'il y a des grimpeurs qui ont appelé au parc et qui ont dit « on a trouvé des œufs qui ressemblent à ci, ça, ça, on a fait des photos, ça vous intéresse ?» Donc ça nous a permis de qualifier le lieu de reproduction, et donc d'aller plus loin, à travailler avec les grimpeurs, etc. Donc ça peut arriver. De la même manière, il y a... un autre site où on a une espèce de myosotis, donc on le connaît bleu dans les champs, mais il y a plein de sortes de myosotis différents. En l'occurrence, c'est le myosotis peluncicola, qui s'appelle le myosotis des grottes, qui est connu dans le monde à 10 endroits seulement. Et il y a une station qui est incroyable, qui a plus de 800 pieds dans le Vercors. Et il y a un site d'escalade dans ce site-là. Il y a une vire qui est pratiquée aussi par d'autres... par les chasseurs, etc. Donc on savait la présence de cette espèce. Des voies ont été ouvertes. Donc on a enquêté pour trouver l'équipeur et travailler avec lui. On lui a expliqué. 10 endroits dans le monde, vous imaginez, c'est rien, quoi. Elle est connue nulle part. On a une forte responsabilité énorme à préserver cette station. Et c'est une plante qui est annuelle. Donc quand on piétine les graines, elle ne se reproduit plus. Et en fait, en expliquant tout ça à l'équipeur, il a déséquipé les voies les plus problématiques, les 3 premiers points, en disant au moins, moi, si j'ai envie de les faire, je remets mes points, puis voilà. Et surtout, il est allé grimper dans les falaises et il nous a permis de dire, là, t'en connaissais 600 des pieds, mais en fait, t'en as 800, parce qu'il y en a dans la vire. Et du coup, ça, c'est hyper riche comme moment, c'est justement de l'humain. Et pour moi, c'est vraiment, comme tout à l'heure, quand je vous parlais des spits dans l'air d'aigle, j'ai l'impression que notre petite... nos petits pas tous ensemble, ils permettent d'avancer justement tous ensemble, quoi.
Une pratique intéressante chez l'highliner qu'on aura difficilement, qui est plus technique, on va dire, chez les grimpeurs, mais la majorité des sites, dès qu'on en a l'occasion, en fait, on évite de laisser du matériel aussi métallique dans les roches et on se retrouve énormément à s'accrocher simplement autour des arbres, dans les lunules, sur qu'est-ce qu'on trouve, mettre des coinceurs, de faire des installations de slack et en fait, c'est une manière finalement créative aussi de s'approcher des lieux, de trouver en fait une solution alternative à prendre son perfo et installer des spits pour la majorité des lieux. Et ça, en fait, c'est carrément quelque chose qui motive, quoi. C'est un élan de motivation. On avait équipé en Ardèche, pareil, des sites. On s'est retrouvé à ne jamais pas d'utiliser de drone, mais c'était volontaire de notre part de vouloir simplement traverser à pied en esquivant les chemins qu'on peut prendre justement pour pouvoir aller de l'autre côté de la falaise. Donc c'est quand même un impact qui est différent entre faire voler un drone par rapport aux oiseaux locaux ou quelqu'un qui marche dans les buissons. On a équipé donc que sur l'unule ou sur des racines ou sur ce qui était sur place, ce qui fait que quand on est parti, la seule impact qui restait, c'était d'avoir marché à travers certains chemins pendant 3-4 jours, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, en tout cas dans le monde de la highline, c'est qu'au moins possible, on peut installer des points et au mieux possible. C'est que ça oriente aussi même nos installations où des fois on voudrait équiper certaines lignes Et on se dit, bah non, on va devoir mettre des points là, donc on va plutôt se déplacer pour aller ailleurs, pour essayer de trouver les arbres, la vire, la fissure qui convient bien pour s'équiper, quoi.
Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a lancé un chantier à la suite de la dynamique avec les grimpeurs, avec les highliners cette fois, pour travailler ensemble à la rédaction d'une charte de bonnes pratiques de la highline dans le Vercors, qui est en cours d'écriture. Et justement, ce que tu disais, ça fait partie des points qui ont été discutés ensemble, parce que moi, regard écologue, j'avais tendance à leur dire il ne faut pas accrocher vos highlines sur des arbres. Notamment parce que dans les falaises du Vercors, il y a un arbre qui est protégé à l'échelle régionale qui s'appelle le Génévrier turifère, qui est pareil, hyper rare. Pas rare dans le Vercors, mais à une échelle plus large que la nôtre, forcément on a une responsabilité pour le protéger. Et en fait, en discutant avec les highliners qui m'ont expliqué ça, au final on s'est dit, bah oui, si on arrive à référencer sur un secteur les Génévriers turifères qui se voient de loin pour le coup, ça vous permet de savoir que ceux-là vous évitez d'y toucher. Et que vous essayez de vous ancrer sur d'autres choses, quoi. Mais en effet, plutôt pas dans la falaise. Donc voilà, nos discussions en cours, elles permettent de faire ça, justement.
Merci à Manon, Marie-Wen, Romy et Noéline. Merci à Ludovic et à Tom.